D'accord.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Guitare pour un nouveau live, une session Q&A. Ça devient franchement hollywoodien cette affaire, puisque je suis en diffusion sur YouTube, en diffusion sur, sur Twitch. Oui, cette fois, je peux même vous le montrer à l'écran, ma pomme est bien en live sur Twitch. Et je suis aussi en direct sur Clubhouse, et je peux même vous le prouver, puisque j'ai Francis à l'autre bout de la connexion. Voilà, et donc j'ai fait tout un tas de... Tout un tas de micmacs pour injecter le son dans l'audio sans que ça fasse un larcène épouvantable. Dis bonjour dans le poste, Francis.
Bonjour tout le monde.
Et ben voilà.
Ça fonctionne, je ne sais pas si on est nombreux, mais...
Ah bah écoute, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Alors j'essaie, je vais vous montrer mon écran, voilà, pour ceux qui me regardent sur YouTube. Voilà, donc moi je suis ici avec une EVH à la main, puis Francis il est ici, voilà, donc quand Francis va parler, il y a un petit cercle gris qui va s'allumer autour de lui. Vas-y, dis quelque chose, Francis.
Oh, bah, qu'est-ce que... Écoute, je
faut
suis
que ça soit mémorable,
sur,
hein.
Bah écoute, je t'avais promis, enfin je t'avais pas promis, non, tu m'avais suggéré d'écouter Sylvain Luc la rediffusion d'une interview que j'avais loupée, et
ouais.
j'y suis. Enfin, j'y suis, non, j'ai coupé le son, là, mais je suis prêt.
D'accord.
Je ne l'ai pas fait depuis, et voilà, je suis prêt à me régaler.
Est-ce que tu connaissais Sylvain Luc ou pas plus que ça?
Oui, je l'avais... ouais, je l'ai vu en concert à Montpellier il y a quelques années. L'histoire est un peu mémorable, un peu douloureuse pour moi, puisqu'il jouait avec un groupe dont le bassiste était un ami et qui est décédé depuis.
Ah, un peu
donc
triste,
c'est,
effectivement.
Ouais, c'est un peu triste. Et Sylvain nous avait dédicacé le CD, donc c'est un souvenir particulièrement... Enfin, un peu triste, mais
doux amer, comme on dit, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ouais. Bah, Sylvain Luc, là, c'était la troisième fois que je le faisais en interview. Et la première fois, c'était à Montréal, puisque je l'avais croisé, il était à Montréal avec Galliano, je pense, pour faire un hommage à Édith Piaf. Ensuite, je l'avais recroisé à Issoudun, et ensuite, ben là, lors de la sortie de cet album, là, By Renaud Le Temps, là, que je trouve super bien. Et bon, c'est un musicien, évidemment, que tout le monde révère. En général, tu évoques le nom de Sylvain Luc à quelqu'un tout de suite. S'il a un tant soit peu guitariste, il met un genou à terre, voilà, avec la main sur le cœur, quoi, tellement ça nous fait des émotions. Et j'étais hyper content de cette interview. Et c'était vraiment cool. Et lui aussi, je pense qu'il était hyper content. Ouais.
Oh, c'est un gars agréable. Moi, de mémoire, je crois qu'il est bassiste à la base. Et il avait récupéré la basse du copain et c'était juste affolant. Enfin, c'était merveilleux.
Ouais, alors en fait, je pense qu'il a commencé même au violoncelle, après il s'est mis à la basse, etc. Et ensuite, je pense, après à la guitare, mais en fait, chez les Luc, dans la famille Luc, qui sont quasiment tous musiciens de père en fils, je crois qu'il a deux ou trois frères, il me semble. Hein. Les deux qui, enfin, il me semble qu'il a au moins un ou deux frères et avec qui il a fait de la musique très très tôt. Et qui c'est qui me racontait l'autre jour, j'ai croisé quelqu'un qui me parlait de Sylvain Luc, qui me disait que à la basse il est monstrueux, quoi, en plus, quoi. Il fait pas semblant, quoi. Enfin, de toute façon, il fait rien, il fait pas semblant en quoi que ce soit, hein, mais il y a des fois je sais que moi, bon, j'ai pas tout à fait le même niveau que Sylvain Luc, hein, on va pas se le cacher. Mais moi, si quand je passe à la basse, on voit que je suis guitariste, et en général, souvent les guitaristes quand ils passent à la basse, ça s'entend pas mal quand même, hein. C'est un jeu qui est un peu différent, quoi.
Ah, là, c'était super, super, super.
Bah, tu m'étonnes. Bah, écoute, tu regarderas l'interview, puis tu me diras ce que tu en penses. Et si jamais il y a d'autres personnes qui sont en train de regarder ça sur YouTube ou sur Twitch, et que vous êtes sur Clubhouse, et que vous voulez juste entendre l'audio, bah, vous pouvez aller sur Clubhouse. Alors, ce qui était rigolo, c'est que je l'ai raconté dans le live vendredi soir, là, donc j'ai croisé Louis Bertignac sur une room, donc on va dire sur un salon, comme on dit maintenant en québécois. J'ai entendu ça dans un salon, justement, tout à l'heure. Je trouvais ça plutôt plus élégant, plutôt que de dire une room. Et c'était assez rigolo de discuter avec Louis Bertignac. Donc j'en ai profité pour poser une question. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait des systèmes de son pour faire du son, que ce soit en analogique versus numérique, etc. Alors il me dit, oh bah moi, sur scène, ça serait forcément Avoxa C30. Mais par contre, à la maison, alors, il m'a cité ses Amplitubes, je pense qu'il utilise et dont il est très content. Donc c'était
D'accord.
assez cool. Voilà, alors attends, je regarde un peu ce qui se passe au niveau de la
Oui.
chatroom. Je dis bonjour à tout le monde. Il y
Allez.
a Benjamin qui est là. Jean, Stéphane et compagnie. Bah Stéphane, dis-moi, Stéphane Pékin, as-tu regardé l'interview de Sylvain Luc? Et dis-moi ce que tu en as pensé. Et oui, effectivement, tu ne peux pas le voir, Francis, puisque tu es en audio dans Clubhouse, mais derrière moi, j'ai retrouvé un kakémono en fait que Tony avait fait faire pour le festival guitare de Puteaux. Bah, c'était 2019 et c'était une édition où il avait fait gagner une guitare et en fait il avait fait une photo de la guitare et donc le kakémono il est toujours et je l'ai ramené à l'après le festival et donc du coup je l'ai mis derrière. Et ce qui est assez rigolo c'est que l'autre soir je faisais une interview avec Adam Levy, donc le musicien qui était avant Los Angeles, mais maintenant qui est installé à Brooklyn. Et avant de faire l'interview, il me dit, ah mais dis-moi, c'est quoi cette guitare qu'on voit derrière toi? Je dis, bah écoute, c'est pas une guitare en fait, c'est juste un poster. Donc c'était assez rigolo, quoi. Dis-moi, tiens, puisque on est tout seul en tout cas dans la room Clubhouse, ça dit quoi là? Je vais muter mon micro, tu vas me dire comment c'est le son de guitare, si c'est bien ou si c'est pourri. Normalement, ça devrait être bien, mais pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de succès dans l'émission de son parce qu'en fait,
D'accord.
Clubhouse est très très optimisé pour la voix, quoi. Alors, dis-moi comment c'est. Voilà, c'était
Ça
comment?
passe bien, moi je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que
D'accord,
les
ok.
copains en pensent. Je suis sur des AirPods, moi, ça le fait.
Ouais, non, mais en fait, à chaque fois que j'ai fait des tests, moi, évidemment, j'entends le super son, parce que là, je suis branché, donc je peux vous le montrer à l'écran. Voilà, je suis branché sur le canal clean du Marshall, et la prise de son est faite avec la Universal Audio Aux-Box, qui est juste au-dessus. Et tout ça est injecté dans la console de mixage. Donc, moi, j'ai le méga gros son, mais en fait, Clubhouse est hyper optimisé pour la voix. Donc. Du coup, c'est un petit peu choucrouté. C'est un son qui est mono, alors que là, si tout se passe comme il faut, j'envoie du son en stéréo sur YouTube et sur Twitch. Mais bon, voilà, Clubhouse c'est optimisé pour la voix, donc c'est bien normal. Alors, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi dans la chatroom parce que le coût de la session Q&A, c'est comme son nom l'indique, question and answer. Donc, vous avez des questions, je vais essayer d'apporter des réponses. Je vois que dans la chatroom, sur Clubhouse, il y a Tanguy qui vient d'arriver. Tanguy, est-ce que tu m'entends, Tanguy? C'est hyper cool, Clubhouse. On peut avoir des invités comme ça audio en direct. J'ai l'impression d'animer une radio crochet sur Europe 1 dans les années 80, quoi. Alors Tanguy, c'est peut-être pas encore, faut que tu unmutes ton micro, le petit bouton en bas à
Ouais.
droite de ton écran. Ah,
Salut
si, ça y est.
Pierre.
Oui, salut Tanguy, comment
Ouais.
ça va?
Bah écoute, ça va super. Ouais, effectivement, je découvre l'appli.
Eh bah écoute, je suis ravi de t'y avoir invité, tu vas voir, tu vas y perdre un temps fou.
Ouais, effectivement.
Et donc là, je ne sais pas si tu as bien compris, si le titre du salon est bien clair, mais donc je fais mon Q&A habituel du dimanche soir. Et donc là, je diffuse sur YouTube, sur Twitch, et j'ai donc ouvert un salon, une room en anglais sur Clubhouse, avec bah voilà, tous les gens que j'ai pu contaminer pour amener sur Clubhouse.
Ouais, bah j'ai vu le. En fait, j'ai commencé sur YouTube et puis j'ai migré progressivement sur Clubhouse parce que du coup, j'ai enfin créé mon compte, tu vois, comme tu m'avais avec ton invitation.
Bah oui, je
Et,
t'avais envoyé une
et...
invitation. J'ai dit, mais attends, il n'installe pas son application, donc j'aurais
Mais
brûlé
oui,
une de
mais
mes
ouais.
précieuses invitations pour rien.
Non,
J'étais à deux doigts de t'engueuler, hein, Tanguy. Hein.
mais c'est ça. Et du coup, je croyais que tu avais vraiment un invité en vrai dans le showroom. Je me dis, mais c'est qui parle?
Mais c'est toi qui parles. Enfin, c'est Francis là qui est là, qui est un abonné de la
Salut
chaîne
Francis,
Guitare.
enchanté. Salut
Voilà.
Tanguy.
Et Tanguy, donc là, vous le voyez pas puisque vous êtes, il est en audio sur Clubhouse. Donc c'est Tanguy Kerleroux que j'ai reçu la semaine dernière. Et d'ailleurs, j'ai fini de faire l'édition vidéo de la
Waouh.
session et de l'interview ce week-end, et j'ai programmé ça. Et c'est relativement loin hein, dans le calendrier. Il faut
Oui.
savoir, comme je t'avais expliqué, mais je perds jamais une occasion de l'expliquer. J'ai toujours énormément de contenu d'avance sur la chaîne guitare,
Bah bien sûr.
genre 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et curieusement ou pas, ça ne s'est pas tellement, ça a pas tellement changé avec la pandémie. Alors certes, il n'y a pas eu tous les salons, les festivals où je générais d'habitude beaucoup de contenu. Mais il y a eu, bah, j'ai remplacé ça par les interviews en direct et puis bah, j'ai continué de recevoir des musiciens ici. Ça va, tu t'es bien remis de ton interview, Tanguy?
Super, super. Ouais,
Super.
on est. Non, c'était
T'as pas
vraiment
fait de
top
cauchemar, tu t'es pas
encore une
réveillé la
fois.
nuit, tout ça.
Non, ça va. Justement, non, c'était un très très bon souvenir. C'était vraiment top. Hâte de revenir en tout cas pour, je sais pas, un concert en live, autre chose, je sais pas.
Bah ouais, ça serait marrant, hein.
Mais voilà, hein, pourquoi pas. Mais c'est bon, on est qu'à 2 h 30 de Paris, donc hein, ça va vite.
Bah ouais, tout à fait. Et alors, attends, je remontre un peu l'image. Donc, je remontre encore l'application Clubhouse. Je peux peut-être montrer d'un peu plus près. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce que c'était Clubhouse, c'est ça. Donc, c'est une application. Donc là, moi, je suis ici au milieu. Donc, quand je parle, mon cercle bouge. Et là, il y a Tanguy et puis Francis qui sont ici. Et ce qui était rigolo, c'est que je pense le lendemain que j'ai fait l'interview avec Tanguy. Je vais juste dévoiler cette petite chose. Hein, Tanguy, il m'envoie un petit message et puis il me dit, ouais, c'était comment l'interview? J'ai dit, bah écoute, c'était bien. Enfin, je sais pas, t'avais peur d'avoir raconté trop des bêtises ou quoi?
Bah oui, je suis toujours, tu sais, une espèce de rétrospective post-entretien. Et puis je me dis, oh là là, attends, je me souviens que Pierre m'avait posé telle question. Je me dis, mais je suis pas sûr en fait d'avoir
Qu'est-ce que j'ai
vraiment
raconté?
répondu. Et en fait, Pierre était trop poli pour me dire, non, Tanguy, t'as répondu complètement à côté.
Bah, non, mais honnêtement, non, je crois pas. Tu sais, bah, j'ai un peu plus de 1000 interviews derrière moi. Donc, du coup, maintenant, voilà, j'en ai fait parler des plus coriaces que toi, hein,
Ah, bien sûr.
rassure-toi. Donc, non, non, mais honnêtement, ça s'est bien passé et
Bon,
c'était bien cool. Ouais, tout à fait.
génial, tant mieux. Ouais, c'était plaisir partagé en tout cas. C'était génial. Bah, pour un droit
Alors,
de réponse, hein.
oui, absolument
Tanguy, il
pas.
aura un droit
Aucun
de
droit de
réponse.
réponse.
Ah bon?
Rien, rien
D'accord.
du tout. Il aura rien, Tanguy.
C'est ça.
Non, mais j'ai
Bon,
refusé des droits de réponse à des gens un peu plus connus, monsieur. Hein. Alors attention.
bien
Hein.
sûr, bien sûr. Ok.
Non, mais enfin, blague à part, moi, comme j'explique toujours, ça, c'est. Enfin, c'est. Moi, je suis là pour faire que les gens racontent leur histoire. Donc, évidemment, si jamais il y avait un truc vraiment à la fin, tu m'avais dit, ah bah écoute, je sais pas, je me suis lâché, je dis tel truc, je l'aurais viré ou je sais pas quoi. Mais honnêtement, depuis 10 ans que je fais ça, depuis 2009, c'est jamais arrivé. Hein. Le pire qui est arrivé, c'est des gens qui me disent, ah bah finalement, bon. On refera une interview, tu vois. Bon, voilà, il y a eu un ou deux cas comme ça, mais sinon, les seuls cas où moi, personnellement, je fais du montage, c'est genre, par exemple, un problème technique, une porte qui claque, tu vois, une batterie qui me lâche, ou des choses comme ça, mais sinon.
Ouais, des choses qui peuvent arriver facilement en plus.
Oui, voilà, c'est ça, ce qui arrive parfois plutôt quand je suis à l'extérieur, tu vois, où là, peut y avoir des interruptions qui sont pas prévus, mais sinon, voilà, parce que en plus, parce que le problème de ça, je vous le dis franchement, les yeux dans les yeux, pour ceux qui me regardent sur YouTube, c'est que ça devient vite la porte ouverte à toutes les fenêtres. Quand si jamais tu laisses ça, et très souvent, les gens qui me demandent après, ah bah est-ce que je pourrais regarder l'interview pour valider, etc. Je leur dis poliment non. Mais fermement parce que honnêtement, j'estime peut-être à tort, hein, mais que j'ai une certaine crédibilité en tant qu'intervieweur et que Si tu ouvres ne serait-ce qu'un petit peu la porte du droit de relecture et compagnie, voilà, si vraiment on me tordait le bras, je le ferais. Enfin, tu vois, si Eric Clapton me demandait un droit de réponse, ouais, je ferais un effort pour lui, tu vois, pour Jimmy Page, pour Jeff Beck, tout ça, quoi. Mais en dessous, honnêtement, je ne le ferais pas, quoi.
Compris Tanguy. Ouais, bah écoute, il reste du boulot maintenant.
Non, mais surtout, encore une fois, l'idée. Moi, je serais le premier. Si je trouvais que l'interview n'était pas bonne, enfin, j'aurais aucun intérêt d'aller chercher la merde, de balancer un truc qui n'est pas bon ou qui mettrait en porte-à-faux les musiciens. Comme je dis
Bien
toujours,
sûr,
moi,
bien
j'essaie
sûr.
de faire partie de la solution plus que du problème, quoi. Donc, ça serait même, d'une certaine manière, un peu suicidaire de ma part.
Ouais, c'est
Alors,
clair. Ouais.
bougez pas. J'ai une petite question dans la chatroom. Benjamin qui me demande une interview de Jean-Michel Cajdan de prévu. Ça fait longtemps, ça me manque son board 2021 ou une thématique jamais abordée avec lui. Bah écoute, c'est vrai que des interviews de Jean-Michel, Benjamin, j'en ai fait un certain nombre, voire un nombre certain. Je vais regarder si je tape, si je, là j'affiche le site web de la chaîne guitare.com. Si je tape Cajdan, vous allez voir le nombre d'articles qui va sortir. On en avait fait une interview il n'y a pas si longtemps, c'était au mois, ben, pendant le premier ou deuxième confinement. On avait fait une visite assez détaillée aussi pour parler de matos, de ses guitares Marceau, de son ampli Mostro, de son pédalier, voilà. Enfin bref, la première, ça doit remonter, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Ça doit remonter, je pense, 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Je sais que là, en 2011, je l'avais fait en interview. Mais bon, ça serait de toute façon intéressant parce que c'est effectivement un excellent client en interview, le Jean-Michel. Donc pourquoi pas. Ensuite, nous avons sur YouTube Eliobou qui me dit: j'ai une Squier actuellement, je voudrais monter en gamme. Ben, excellent. Est-ce que la série Player de Fender vaut le coup? Il y a des points faibles, point d'interrogation. Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion de jouer de tester les Fender Player. Enfin, en tout cas, je les ai juste pris en main comme ça, très rapidement. Mais je sais que ce sont d'excellents rapports qualité-prix. Après, on peut aussi dire la même chose des Squier. Alors après, chez Squier, je sais que ça commence chez Fender assez bas en prix, genre 200-300 euros, même quelque chose comme ça, pour les séries indonésiennes. Donc après, il faut voir, hein, peut-être s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, il y a des choses qui s'upgradent très facilement, hein, sur une Squier, genre changer les micros, ça peut être peut-être moins cher que de changer de guitare. Si elle ne tient pas très bien l'accord, ça peut être changer le vibrato ou changer les mécaniques, ou peut-être même parfois tout simplement aller voir un luthier, hein, si elle a besoin d'un bon réglage, quoi. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Fender fait d'excellents rapports qualité-prix. Il y a quelque temps, j'avais eu en main les modèles Fender Lead qu'ils avaient annoncés au NAMM l'année dernière. C'était la Lead 2 et la Lead 3. C'est fabriqué au Mexique et honnêtement, c'était super bien. Des petites guitares qui sortent, je ne sais plus si j'avais noté les prix dans mon article. Mais à quelques centaines d'euros, moins de 1000 euros, 650 euros, voilà, pour chacun des modèles. Et ce que j'aimais bien avec ces deux guitares, la Lead 2 et la Lead 3, c'est que c'était avec des chevalets fixes. Donc du coup, on n'avait pas du tout le problème parfois des trémolos un peu approximatifs qu'on peut trouver sur les Fender d'origine. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, mais n'hésite pas. Il y a Thierry Benita qui demande: est-ce que Clubhouse est uniquement pour Apple? Oui, actuellement, Clubhouse est uniquement sur iPhone. Et ce qui est assez fou, c'est que même en étant sur une seule plateforme, qui est loin depuis longtemps maintenant d'être la plateforme la plus utilisée en termes de smartphone, je ne sais plus. Enfin, ça dépend les pays, mais c'est grosso modo 80% Android, 20% Apple. Il y a des pays où c'est très différent. Mais ils ont fait le choix de lancer que sur iPhone. Et malgré s'être limité sur une seule plateforme, ils ont une croissance de fou, hein. Ils sont à 10 millions d'utilisateurs. Il y a encore une semaine ou deux, ils étaient à 6 millions. Enfin, c'est assez phénoménal. Donc voilà, du coup, je pense qu'ils sont déjà pas mal occupés à gérer la montée en charge. Mais je trouve ça assez cool, hein, en termes d'outils. C'est un réseau audio, bah voilà, un réseau social audio où on rentre dans des salons, donc, pour discuter. Moi, je suis allé dans pas mal de salons, soit pour contribuer ou juste écouter. Et je suis vraiment très, très surpris de la qualité de discours. Alors après, les thèmes, des fois, c'est un peu, ça peut être très, très... très très enfin très très léger comme des trucs un peu plus lourds, mais évidemment comme dans la vie, comme si vous étiez avec d'autres personnes, ça dépend évidemment des gens qui sont autour de vous, quoi. Donc si vous avez que des gens passionnants, bah, vous allez avoir une discussion passionnante. Si c'est un peu moins intéressant, ça peut vite virer bref de comptoir, pas très bien, enfin bon. Et ce qui est vraiment très très fascinant, enfin moi ce qui me fascine beaucoup, c'est que comme c'est un réseau qui est basé sur l'audio, et donc on se parle, on s'écoute. Là, j'ai donc Francis et Tanguy qui sont à l'autre bout, on est finalement dans la même pièce virtuellement. Eh bien, on a l'intonation de la voix. Donc, si je lance une vanne, il ne peut pas y avoir de doute sur la vanne. Voilà, vous entendez Francis qui rigole, voilà. Si je lance une vanne et que je me plante et qu'il rigole pas, il n'y a pas de doute aussi. Enfin, voilà. Si je suis un peu sérieux, il va aussi comprendre que je suis sur un truc et qui est sérieux. Donc, et ça, c'est évidemment tout des petites nuances qu'on a perdues, qu'on perd avec l'écrit, avec un tweet vengeur qu'on peut balancer, ou un post sur Facebook, où les gens règlent un peu leur compte, où on sait très bien que ça peut partir en sus assez rapidement, quoi. Donc voilà. Je continue, je mets des sous dans un pot de confiture et pour me payer la même guitare Gibson acoustique. Ah bah écoute, c'est Jean-Marc Hallem qui dit ça. Eh bah écoute, tu as bien raison. Donc alors c'est la Gibson, la J50 qui est derrière moi là-bas, qui est une très belle guitare. Et elle coûte pas mortellement cher en plus, hein, c'est Gibson. Celle-là, elle est de 1966. Je vais aller vous l'attraper pour vous la montrer, parce que je ne perds jamais une occasion de montrer les belles guitares qu'il y a au showroom. Alors, je vais essayer de rien casser. Je suis accroché avec un fil qui est assez long. Normalement, vous m'entendez encore. Voilà. Et j'attrape la guitare. Alors, il y a des guitares qui coûtent hyper cher, hein, que ce soit chez Gibson ou chez Martin. Chez Gibson, tout ce qui est Hummingbird et compagnie, ça coûte cher. Là, cette Gibson J50 des années, je pense qu'elle est de 1966. Je dis je pense parce que je ne suis pas complètement sûr, parce que le numéro de série, il est à moitié effacé. Non, il est derrière la tête. Et la numérotation des guitares Gibson, c'est pas top. Enfin, surtout dans ces années-là. Et en fait, c'est pas des guitares qui cotent d'enfer, parce que celle-là, c'est une J50 ADJ. Donc, elle avait à l'époque, là, elles n'y sont plus, mais il y avait des petites molettes de chaque côté du chevalet qui permettaient de régler la hauteur des cordes, ce qui est vraiment une fausse bonne idée pour une acoustique, ce qui bouffait du son, etc. D'ailleurs, sous cette guitare, elles n'y sont plus. C'est une player dans le sens où elle a été beaucoup jouée. Voilà, il y a des bonnes traces de ceinturon derrière. Il y a eu un piezo qui a été installé dessus, mais c'est un piezo des années 70-80, donc autant dire que c'est une vraie daube, quoi. Je l'utilise jamais comme ça. J'essaie de vous montrer la tête, voilà l'arrière de la tête. Ce ne sont pas les mécaniques d'origine, c'est des chaleurs. Donc ça fait que, certes, c'est une guitare des années 60, enfin des années 60, et qui sonne super bien. Honnêtement, pour tout ce qui est strumming, je ne peux que vous renvoyer vers le live où Nico Chona avait joué un de ses morceaux comme ça en direct, à froid, sans réverb, sans rien avec celle-là. Et ça sonnait super bien. Et donc, c'est pas des guitares. Bon, on est, je pense, je connais pas les codes par cœur, mais on est dans les 2-3 000 euros, quelque chose comme ça. Il y a des guitares des années 60 qui, c'est plutôt un zéro de plus parfois qu'il faut ajouter. Et c'est pas non plus des Martin pré-war qui se comptent en dizaines de milliers d'euros. Et plus la guitare, elle est player dans le sens où elle a été jouée, etc., plus la cote diminue en fait. Donc voilà. Et il y a même eu ici, alors je sais pas si on voit bien, j'essaie de montrer, voilà, là j'essaie de, voilà, regardez ça, il y a une belle fissure ici, là, sur la table, qui a été assez vilainement réparée. Voilà, sans doute à coup de vernis à ongles, enfin un truc un peu innommable. Mais ceci dit, enfin voilà, elle est très belle, le vernis est un petit peu craquelé, je pense pas. Ah si, je peux vous le montrer un peu comme ça, regardez comme c'est beau ça. Et ça, c'est du vrai relique, monsieur, hein. C'est du relique qui a vu la route et compagnie, quoi. Et donc, voilà, donc c'est certes des guitares vintage, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais essayer de la poser pour qu'elle ne se casse pas la bidette. Voilà, elle est posée par terre. Mais ce n'est pas des guitares mortellement chères, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, faut regarder dans les petites annonces. Il y a Jérôme Casanova qui a repris la galerie qu'avait avant François Charles là, dans la galerie Vérododa. Donc, vous allez sur son site, jérômecasanova.com, je pense. Je peux aller jeter un petit coup d'œil. On va aller regarder ça. Casanova. Casano. J'arrive pas à écrire parce que j'ai un gros fil devant moi. Casa. Nova Jérôme, voilà. Hop, c'est galerie-casanova.com. Voilà, donc ça, c'est une. Si vous cherchez en tout cas du matériel vintage par expertisé par un vrai luthier, parce que Jérôme Casanova, c'est un vrai luthier, galerie-casanova.com, il a beaucoup de choix. Alors certes, vous allez payer ça un peu plus cher que si vous étiez en direct avec un particulier. Mais par contre, la guitare, elle sera expertisée et il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Donc, excellent projet. Je repasse sur les questions. Est-ce que j'ai des nouvelles de la factory que voulait monter Jean-Yves Alquier? Je trouve l'idée super, mais je n'arrive pas à savoir si le projet aboutit. Ah oui, alors, l'usine, effectivement, que Jean-Yves Alquier voulait monter, ça date de. Ça date de quand? De 2000, c'était le NAM. Il avait annoncé ça au NAM 2017 ou 18? 18, je crois bien. On va vérifier. C'était en 2018 et j'ai un peu, enfin c'est un peu triste à dire, mais le projet n'a pas fonctionné en fait. Ça s'est arrêté assez rapidement. Ça a duré quelques mois, mais ils n'ont pas eu l'attraction la plus loin traction qu'ils voulaient avoir pour produire des guitares. Donc je pense qu'ils ont plié les gaules et maintenant Jean-Yves est toujours actif en tant que luthier, mais sur un atelier de lutherie standard, pas du tout sur une usine. Effectivement, enfin, c'était un projet qui était intéressant. Est-ce que il y avait la viabilité de faire quelque chose d'aussi gros tout de suite en France? En France, il n'y a pas d'usine de guitare. Hein, je pense que les gens qui ont la plus grosse structure de production de guitare, doit y avoir Patrice Vigier. Et je pense même que ce que produit Tom Marceau en Bretagne en nombre d'instruments est plus important. Enfin, je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est comparable. Mais on ne parle pas d'usine. Hein, l'atelier de Tom Marceau que j'ai eu l'occasion de visiter quand il l'a inauguré, c'est pas les usines Taylor que j'ai eu aussi l'occasion de visiter à San Diego en Californie ou à Tecate ou au Mexique de l'autre côté de la frontière. Hein, enfin, à mon avis, on parle plus de gros ateliers que d'usines. Usine, c'est un côté un peu monstrueux. Donc malheureusement, voilà, le projet s'est arrêté. Maintenant, si vous voulez une guitare de Jean-Yves Alquier, c'est toujours possible de le contacter. Yannick 19 qui essaie de trouver une Squier JV. Bah oui. Alors les Squier JV, c'était les Squier des années quoi 80 dans ces eaux-là, et qui étaient avec un numéro de série qui commençait par JV, je crois. Et qui étaient hyper bonnes, effectivement, qui sont hyper réputées, et du coup qui cotent franchement très très bien, quoi. Alors, il y a Ellie qui me remercie pour les infos. Malheureusement, Fender a des gros problèmes de stock et tous les magasins et Thomann sont vides. Eh bien, effectivement, vous avez dû voir passer enfin, dans les nouvelles même, parce que même j'ai vu un article de France Inter qui disait que les magasins avaient fait plus 20% en 2020. Ben, toutes les marques, hein, j'ai fait un débrief pendant le NAM en ligne, là, le Believe in Music, la Believe in Music Week, où il y avait Andy Powers, donc, qui est le patron de facto de Taylor aujourd'hui, qui confirmait que 2020 était une année record et pour Taylor et pour toutes les marques. Et ça a été le cas aussi pour Fender, aucun doute là-dessus. Donc du coup, les magasins ont bien du mal à trouver du stock. Il y a John Doe qui dit je conseille vraiment les sets de chez Alberto. Alors effectivement, il parle de Alberto Arcangeli, de Dream Songs Pickup, qui fait d'excellents micros. Alors je le dis d'autant plus facilement que j'ai eu l'occasion d'avoir une guitare ici au showroom qui était équipée avec les micros de Alberto, et ça fonctionne super bien. Il fait de la super cam. C'est un Italien qui parle français. Son site web, c'est dreamsongspickups.com. Et il fait de la super cam. Il est très, très raisonnable en termes de prix. Honnêtement, moi, tous les clients que j'ai envoyé chez Alberto sont hyper contents. Et si vous êtes abonné à la chaîne guitare, en plus, vous pouvez discuter avec lui via le forum. Donc, c'est un bénéfice de plus. Donc, il fait vraiment des chouettes trucs, que ça soit au niveau symbominage, humbucker, tout ça. Il fait même et propose même des services de rebobinage. Il y a Steven, un abonné de la chaîne guitare, qui avait fait rebobiner des P90, qui était hyper content du service. Alors, il y a Yvan qui dit Squier, j'en ai une Squier JV, j'en ai une il y a plus de 30 ans, excellente guitare. Eh ben oui, et on salue Yvan Guilvic au passage. J'espère que ça va bien, Yvan, que tu restes bien occupé à Lorient. Tu sais ou tu ne sais pas, mais j'ai toujours le projet de venir passer quelques jours dans ta verte Bretagne pour aller donc chez Thierry Labrouze, avec qui tu m'avais branché d'ailleurs, hein, parce que c'est grâce à toi que j'ai le contact avec Thierry, puis que depuis on se quitte pas. Donc d'aller chez Thierry pour faire quelques chroniques, pour parler d'ampli. Alors je vois qu'il y a pas mal d'abonnés sur la chaîne guitare là, qui sont là, donc qui savent de quoi je parle, mais il y a un contenu qui fonctionne très très bien sur la chaîne guitare, c'est tout ce qui est les chroniques lutherie. Et j'ai eu l'occasion d'aller passer plusieurs week-ends, bah, par exemple chez Franck Cheval, mais aussi chez Tony Giraud ou chez Mike Lewis et compagnie, pour plonger un peu plus dans les dédales de la fabrication d'instruments. Et j'aimerais beaucoup faire ça avec Thierry. J'avais même pris mes billets de train, en fait, lors du, je sais plus combien de confinement. Enfin bref, si c'était en octobre dernier, donc ça doit être le deuxième. Et puis, ben, j'ai annulé, puisque voilà, on pouvait plus changer de pièce. Mais voilà, donc évidemment, je suppose qu'on aura l'occasion de se croiser à ce moment-là. Il y a John Doe qui dit, j'ai commis une vidéo comparo sur ma Fender Made in Japan entre avant et après, avant Texas Special. Ah oui, exact. Et donc, super content. Bah, écoute, très très bien. Génial. Oui, j'ai bien hâte. Il y a quelques projets comme ça de déplacement que j'ai. Il y a le projet d'aller chez Virgile Pilon à Biarritz, là aussi, pour faire quelques chroniques, pour montrer un peu comment il fabrique ses guitares, etc. Et puis aller chez Thierry, ça, je suis assez chaud patate là-dessus. On s'est encore parlé la semaine dernière. Bah, évidemment, lui, il est partant à fond, et on irait sans doute aussi chez ça y est, son nom est en train de m'échapper, chez le luthier qui lui fait la cabinetterie. C'est atelier guitare et compagnie, je crois. Oh là là, il va me tuer. Antoine Jourdan. Voilà, ça y est, le nom m'est revenu. Donc Antoine Jourdan, qui est un luthier, un super luthier guitare, qui fait d'excellentes guitares acoustiques. Et donc, il fabrique les câbles, les baffles de Thierry. Alors, je peux vous en montrer, hein, les baffles de Thierry. Voilà, puisque ici, il y a mon fidèle V-Twin qui est ici. Voilà, qui est là. Alors, qui n'est pas un baffle, hein, qui est un combo et qui m'accompagne depuis quelques années. Thierry me l'avait livré à Issoudun il y a quelques temps. Et c'est Star sur Star qui ont joué sur cet ampli. Depuis le temps que je l'ai. Et encore la semaine dernière, j'avais Marcello Giuliani, qui est un bassiste qui a joué avec Étienne Dao, avec Jane Birkin, avec Eric Truffaz, etc. Enfin, le mec, quand il joue une ligne de basse, il met tout le monde d'accord, quoi. Et donc, il a joué dans le Celt, et ça sonnait terrible. Alors, moi, pour la prise de son, j'avais mélangé la DI avec le son qui venait de la Hoaxbox, et ça marchait top moumoute. Alors, sur le V-Twin, c'est un ampli, c'est un baffle, un HP 12 pouces. Donc voilà, faut pas non plus espérer que ça bouge de l'air comme un gros baffle SVT avec tout plein de HP à l'intérieur. Mais pour le volume où on jouait, c'est-à-dire en interview, ça marchait top moumoute. Ah, il y a Yvan qui dit, j'ai testé un nouveau proto Celt, une tuerie. Bah, ça m'étonne pas du tout. Il m'en avait parlé, hein, il me semble, quand on a discuté au téléphone. De toute façon, en gros, tout ce que fait Thierry, c'est top moumoute. Est-ce que vous avez des questions ou des choses sur lesquelles je pourrais vous aider, vous répondre? Est-ce qu'il y a des questions dans Clubhouse? Je vois qu'il y a Eric, Kéla et Gilles. Gilles et Eric, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Donc vous appuyez sur le petit bouton pour lever la main en bas à droite de votre écran. Et je serai ravi de vous accueillir en direct, sachant que c'est diffusé sur YouTube et sur Twitch. Voilà, après, ça peut être une interaction qui a lieu autrement après par la suite sous forme de messages, de DM ou comme vous voulez. Où trouver des lampes vintage? Nick19 qui me demande ça. Eh ben écoute, des lampes vintage, je ne sais pas. Et honnêtement, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de prendre des lampes vintage. L'autre jour, je discutais avec Arnaud Bascuniana, qui est l'ingé son qui a travaillé sur les deux albums United Guitars. Et dans son studio, le studio 180 à côté de la porte de Pantin, il m'expliquait qu'il avait des micros de course, je pense des U87 ou je sais plus quel Neumann, qui ont des micros à l'intérieur, des tubes, pardon, à l'intérieur. Et il avait fait l'effort d'acheter des new old stock, plusieurs reprises, etc. Sauf que quand tu reçois des tubes vintage comme ça, bah, une fois sur deux, les tubes en question, ils sont nazes. Donc à 70 balles le bout, ça fait un peu chier. Du coup, il a arrêté. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a certains, moi j'ai entendu aussi des histoires sur des micros à Watt 1000 balles, là, sur lequel il y avait des gens qui récupéraient les tubes à l'intérieur et que c'était quasiment le Graal, enfin la valeur intrinsèque du micro. Bon, alors on parle sur des micros évidemment qui sont très très chers. Sur nos petits amplis à lampe, je sais pas. De toute façon, c'est un peu la loterie. Ce qui est sûr, c'est que quand j'avais visité l'usine Friedman à Los Angeles dans Huntington Park, j'avais fait d'ailleurs la visite avec David Friedman lui-même. Ça, c'est un des super souvenirs du dernier NAMM. Je peux vous montrer quelques images. Il raconte, David Friedman, que ben, lui, enfin, c'est une partie du boulot qu'ils font à l'usine, c'est de trier les lampes. Donc voilà, le fringant David Friedman que vous voyez à l'écran, donc c'était bah, tout début 2020, après le NAMM. Alors David Friedman, je l'avais déjà enregistré plusieurs fois, on a fait une interview sur place, et on a fait toute une visite aussi pour regarder comment on fabriquait, comment les amplis sont fabriqués là-bas. Et il faut savoir que ce n'est pas que ces amplis qui sont fabriqués à Huntington Park, c'est Bootycamp Distribution qui possède l'outil de production. Et donc, il y a voilà un peu des images de l'endroit où ils fabriquent les câbles et compagnie, et ainsi de suite. Donc, dans cette usine sont fabriqués non seulement les amplis Friedman, mais aussi Soldano, Tone King, le système Synergy, les pédales Wampler, et je crois que j'en oublie encore une ou deux autres hein, de marques. Donc tout l'outil de production est consolidé. Alors ça reste, voilà, là on peut pas vraiment parler d'usine parce que c'est très très grand. Ça reste quand même des outils de production qui sont assez rudimentaires, parce qu'on ne va pas se le cacher. Hein. La techno des amplis à lampe, c'est la techno qui date d'il y a 50, 60 ans, voire même un peu plus. Hein. Donc y a pas, on n'en voit personne sur la Lune avec ces trucs. Enfin, plutôt si, à l'époque où d'Apollo et compagnie, il y avait encore des lampes dans les instruments électroniques. Mais voilà, techniquement, c'est pas très compliqué, quoi. Je bois une petite goutte. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté de mes petites choses dans mes petites notes? Pour ceux qui sont amoureux de bouquins, j'ai ici avec moi l'excellent bouquin de Patrice Veillon et Arnaud Legrand sur la famille Favineau, les duchés Favineau, donc Jean-Pierre et Jacques Favineau. Donc Jacques, c'est le papa et Jean-Pierre, c'est le fils qui a repris le flambeau. Et c'est un bouquin qui est franchement superbe. Voilà. Alors, faut aimer la lutherie, hein, bien sûr. Sur quoi j'ai tapé? Je ne sais pas. C'est mon appareil photo. Mais c'est très, très bien fait. Des très belles illustrations. Ça mélange assez agréablement, je trouve, les textes et compagnie. Et franchement, c'est splendide. Il y a évidemment tout un chapitre sur Georges Brassens. Voilà, ça vaut 75 euros. C'est un bouquin qui est assez gros. Voilà, qui est quand même assez épais. Il y a beaucoup de belles photos et je recommande chaudement. Et il y aura très bientôt un exemplaire de ce très bel ouvrage à gagner sur la chaîne guitare. N'hésitez pas, hein, Francis et Tanguy, si jamais vous avez des questions. Comme vous êtes sur le stage avec moi, vous avez aussi la possibilité d'intervenir quand vous voulez.
Ouais, pas de souci, on écoute. Tu parlais d'inviter des luthiers.
Ouais.
Est-ce que tu as déjà invité ou tu prévois d'inviter Éric d'Armagnac? Je trouve ces guitares magnifiques.
Alors,
Ça
Eric,
te parle?
bien sûr que ça me parle, puisque
Ouais.
Eric, je l'ai croisé plusieurs fois. Je suis en train de vérifier. Je suis à peu près sûr que je l'ai interviewé. Éric d'Armagnac, oui, c'était à Guitare au Beffroi en 2015.
D'accord.
Et depuis, on s'est croisé sur tous les Issoudun. Et c'est un des meilleurs, des tout meilleurs luthiers français, Éric d'Armagnac, qui fait vraiment des choses avec un niveau de détail assez
Ouais, c'est
incroyable.
énorme.
Ouais. Toi, tu le connais, Éric?
Non, je connais sa compagne d'aujourd'hui, Anouk André, que tu
Bah oui,
avais
que j'avais interviewé aussi,
interviewé
bien
il y a
sûr.
longtemps.
Ouais,
C'est
ouais.
comme ça que je t'ai connu d'ailleurs, en fait,
D'accord.
en cherchant Anouk.
Ouais, non, Éric d'Armagnac, il fait du super boulot, hein. Ses guitares sont franchement très très bien. Et ouais, un fidèle d'Issoudun. Je ne suis pas sûr il en ait raté beaucoup ces dernières années. Enfin, à part évidemment celui de la
D'accord.
dernière qui a été annulé, quoi. Alors, j'ai
Ok.
Benutcho's Glarf, voilà un pseudo un peu bizarre, qui me demande: aurais-tu une idée d'un luthier qui pourrait être assez barré pour me suivre dans une création de gratte électrique à partir de restes d'un vieux piano? Waouh! Voilà effectivement une idée un peu barrée. Bah écoute, des luthiers barrés, c'est presque un pléonasme, hein, parce que faut être un peu fou pour faire ce métier qui est extrêmement compliqué, hein, parce que c'est ce qui est très très injuste quand on est luthier, c'est que même quand tu es bon dans ton métier, c'est pas du tout une garantie que tu vas arriver à en vivre. Et d'ailleurs, malheureusement, je connais plus des luthiers qui galèrent dans leur vie économique que des luthiers qui vivent de leur art, quoi. Donc après, faut chercher. Hein, ce que tu évoques me fait penser à comment il s'appelle ce luthier que aussi qui est très souvent à Issoudun. C'est Philippe Bern, je crois, c'est ça, hein, son nom. Alors lui qui fait toujours des trucs un peu barrés, à la limite de la poésie, des instruments très étranges avec des formes un peu étonnantes. Ouais, je l'avais fait en 2014 en interview. Alors lui, ça serait typiquement, je suis à peu près sûr que ce genre de projet, ça peut l'intéresser, hein, Philippe Bern. Après, la rencontre avec le luthier, c'est toujours un peu un challenge évidemment, hein, parce que bah voilà, comme je dis toujours, quand on travaille avec un luthier, enfin quand on commande un instrument avec un luthier. Bien sûr, on achète la guitare. Voilà, par exemple, cette très belle guitare là, qui vient d'Espagne. Voilà, c'est clairement d'inspiration Strat. Et pourtant, c'est assez différent parce qu'elle a une guitare un corps en acajou. C'est une guitare qui est faite par Francisco Rodriguez, un luthier que j'avais connu à Berlin au Holy Grail Guitar Show. Et voilà, donc si vous voulez du Fender, mais avec la patte du luthier, bah, par exemple, vous pouvez aller voir ce genre de luthier. Après, un luthier qui fabriquait une guitare à partir de restes de piano, alors là, par contre, si tu arrives à en trouver un et que le projet aboutit, tiens-moi au courant, parce que je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Mais il y a des luthiers qui font des choses très barrées, sur des choses très... et ça peut donner des choses très, très étonnantes. Hein, Francisco Rodriguez, la guitare que je viens de vous montrer, c'est très, très classique. Hein, voilà, de loin, on ne peut pas prendre ça pour une guitare autre. Il y a des luthiers qui font des choses beaucoup plus barrées. Hein, j'ai eu l'occasion de vous montrer le travail de Michael Spalt, là, qui est un Autrichien. Voilà, qui fait des trucs complètement incroyables. On est borderline, enfin même des fois pas borderline, on est même carrément dans l'œuvre d'art. Mais surtout, moi ce que j'adore, c'est que oui, c'est certes une œuvre d'art, là c'est l'Octopus que je vous montre à l'écran, le modèle G 2002, mais c'est surtout des guitares qui sonnent terribles, quoi. Ça, cette guitare-là, elle est passée au showroom quelques temps, puis après, elle est partie chez leur dealer au Japon. Et ça sonnait franchement terrible. Voilà, 19h48, on va bientôt lever le camp. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est encore le moment, c'est l'instant, encore quelques minutes devant nous. Moi, au niveau des prochains invités, la semaine prochaine, j'aurai Thomas Fratti, ça sera l'invité de l'interview en direct mercredi. Je fais aussi des chouettes interviews, enfin j'espère qu'elles vont être chouettes cette semaine, enfin lundi et mardi. Lundi, j'aurai Marc Lethierry, qui est un musicien que j'avais déjà croisé au NAMM en 2017 et qui est un des trois guitaristes qui joue avec Snarky Puppy. Et donc et là, il sort un album en mars, et donc qui est vraiment très très bien, sur lequel il joue de la baryton, qui est très funk, ça c'est vraiment cool. Et il y aura Samuel Strouk aussi qui vient ici au showroom pour une interview, ça serait vraiment cool. Et très important, jeudi 4 mars à 19h, ça sera un événement historique puisque ça sera le premier concert en direct du showroom avec Roxane Felici et puis Théo Cormier. Théo que j'ai eu au téléphone hier, on a discuté un peu pour préparer ça, pour voir un peu comment on allait organiser ça, puisque d'habitude au showroom je suis tout seul ou des fois avec une autre personne, mais la formule concert en direct, on l'a jamais fait. Donc voilà, ça devrait être bien sympa. Et l'idée du concert en direct, c'est de faire de 19h à 19h30 concert. Moi, je ferai juste un petit coucou au début de présentation. Ensuite, ça sera leur performance. Et ensuite, de 19h30 à 20h, on fera quelque chose un peu format Q&A, interview en direct, mais cette fois, par contre, réservé aux abonnés. D'accord? Là où la première partie, elle, sera réservée, sera pour tout le monde. Voilà les prochains événements que j'ai en store, en magasin pour vous. Voilà, et évidemment, je ne peux que profiter lâchement de l'occasion pour vous dire que si vous voulez vous abonner à la chaîne guitare, voilà, comme j'ai mis en très gros sur la chaîne guitare.com, la chaîne guitare, c'est Netflix pour guitaristes, mais en mieux. Hein, t'es d'accord avec ça, Francis?
Ah oui,
J'ai cru que tu allais me dire non, j'ai eu peur
c'est
là.
chaud. Non, c'est pas possible.
Et Tanguy, toi aussi, t'es d'accord que c'est
Ah,
Netflix
je
pour guitariste en
confirme,
mieux, quoi.
bien sûr, ouais, complètement. Non, puis même l'exemple de ce soir avec le Clubhouse, le YouTube, le Twitch et tout ça, enfin, Ouais. c'est top, quoi. On est obligé de. Franchement, là, j'ai regardé tout à l'heure quand t'as dit 18, enfin 19h48, je me suis étonné. Clairement, j'ai dit, mais waouh, ça passe super vite, quoi.
Ah
Donc,
bah,
ouais.
j'aurais dû faire du stand-up, moi, c'est sûr, j'aurais dû
Ah,
faire du
c'est
stand-up.
ça.
Et donc, au niveau de l'abonnement, vous allez sur la chaîne guitare.com, vous cliquez sur abonnement, et puis il y a deux formules, en gros, pour faire simple. Il y a la formule à 6 euros par mois qui permet d'accéder donc à la partie Netflix de la chaîne guitare, donc tout le contenu, toutes les vidéos. Et il y a la formule à 10 euros par mois qui permet d'accéder non seulement au contenu, mais aussi au forum pour discuter donc avec des abonnés extrêmement sympathiques, comme par exemple Francis et puis Tanguy, que vous entendez de leur douce voix. Vous êtes des gars hyper sympathiques en fait.
Oui,
Ouais.
on espère.
Ouais.
Enfin, moi, on me dit ça tous les jours, donc je ça
Ah bon, bah
veut
ça va, alors c'est très bien.
dire
Bah tu vois, je leur ai dit un peu plus ce soir. Excellent. Et donc cette formule, elle est payable aussi en un an, 120 euros par an. Et à ce moment-là, on reçoit le coffret cadeau avec le t-shirt de la chaîne guitare et tout ça. Et c'est garanti, sans troll et surtout avec un amplificateur de passion qui fonctionne à plein régime. Voilà, je vérifie mes petites notes, je crois que j'ai rien oublié, je regarde dans le chatroom s'il y a une petite question qui est arrivée. Non, je crois que tout est là. Eh bien écoutez, messieurs, dames, des fois accueillir les dames, ça c'est vrai que ça manque un peu de femmes hein, sur la chaîne guitare. Et moi, sans déconner, moi dès que j'ai une femme qui me passe sous la main pour faire une interview, je dis jamais non. Hein, donc, mesdames, je suis un homme facile, n'hésitez pas à me faire signe, ça me fera plaisir de vous interviewer. Et non mais je le dis assez sérieusement parce que c'est quand même plutôt un milieu de bonhomme la guitare et c'est quand même un peu dommage. Surtout que toutes les stats le disent, hein, je crois que c'était sur les stats 2019 ou 2020, il y a plus de femmes qui ont acheté de guitare que les bonhommes. Donc faites gaffe les bonhommes parce que j'allais dire les guitares. Les femmes sont en train d'arriver, elles déboulent et moi je suis toujours ravi d'en faire en interview. Ou alors d'avoir des abonnés femmes. J'ai aussi malheureusement très peu d'abonnés féminins. Ça manque un peu. Allez, sur ces bonnes paroles, merci beaucoup d'avoir regardé ce live. Merci beaucoup à Francis et à Tanguy, donc qui ont été mes co-invités, co-animateurs.
Un grand plaisir, un grand plaisir.
Voilà, par la magie
Avec
de
plaisir.
Clubhouse, c'est extraordinaire. Et
Franchement, c'est super.
puis,
Ouais,
moi, je suis assez
c'est
souvent
d'accord.
sur Clubhouse, mais je ne suis pas tout le temps. Mais voilà, n'hésitez pas à me pinguer quand vous me voyez sur des rooms et compagnie. C'est un outil que je trouve qui est assez cool. Voilà, et surtout, donc, n'oubliez pas de bien jouer de la guitare, d'écouter de la musique à fond, parce que c'est quand même un petit peu ça qui nous fait rêver, quoi. Vous êtes d'accord avec
Ça, c'est
moi
sûr.
là-dessus, hein?
Ah,
Ah
oui,
que
oui,
oui.
qui nous fait tenir là. Oui, sûr, sûr.
Excellent. Allez, bonsoir à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao,
Salut,
bye
à
bye.
très vite, ciao ciao.
Alors, voilà, est-ce que je suis off-air?